Quand on rêve à la maison natale, dans l'extrême profondeur de la rêverie, on participe à cette chaleur première, à cette matière bien tempérée du paradis matériel. C'est dans cette ambiance que vivent les êtres protecteurs.
Bonjour à tous, vous écoutez D'ouvrage en ouvrage, un podcast proposé par la Maison de l'architecture de Franche-Comté. Je suis Nicolas Guterlet, votre lecteur du jour.
Aujourd'hui, pour notre cinquième épisode, La poétique de l'espace de Gaston Bachelard ou Séjour de l'inconscient. Entre philosophie et psychanalyse jungienne, rêverie et critique, ce texte d'un Bachelard dit nocturne traverse l'imaginaire poétique de l'espace. Au gré de ses lectures poétiques, le philosophe devenu topo-analyste, c'est-à-dire analyste de l'espace psychique, nous invite à considérer l'impact sur notre psyché des lieux que nous rencontrons et avons rencontrés, des lieux que nous habitons et avons habités, qui nous ont bercés, marqués, transpercés. Espace du dedans, selon l'expression d'Henri Michaud, la mémoire et l'identité, aussi bien singulière que collective en la voix lyrique, subliment les espaces psychiques pour une topographie à la fois sentimentale et organique. L'extrait choisi pour notre lecture du jour est issu du premier chapitre de cet essai, « La maison, de la cave au grenier, le sens de la hutte », qui, ainsi que son titre l'indique, traite de l'imaginaire, des représentations conscientes ou inconscientes que construit la maison. La maison physique est l'idée de maison.
Bien entendu, grâce à la maison, un grand nombre de nos souvenirs sont logés. Et si la maison se complique un peu, si elle a caves et greniers, des coins et des couloirs, nos souvenirs ont des refuges de mieux en mieux caractérisés. Nous y retournons toute notre vie en nos rêveries. Un psychanalyste devrait donc donner son attention à cette simple localisation des souvenirs. Comme nous l'indiquions dans notre introduction, nous donnerions volontiers à cette analyse auxiliaire de la psychanalyse le nom de topo-analyse. La topo-analyse serait donc l'étude psychologique systématique des sites de notre vie intime. Dans ce théâtre du passé qu'est notre mémoire, le décor maintient les personnages dans leur rôle dominant. On croit parfois se connaître dans le temps, alors qu'on ne connaît qu'une suite de fixations dans des espaces de la stabilité de l'être, d'un être qui ne veut pas s'écouler, qui, dans le passé même, quand il s'en va à la recherche du temps perdu, veut suspendre le vol du temps. Dans ces mille alvéoles, l'espace tient du temps comprimé. L'espace sert à ça.
Et si l'on veut dépasser l'histoire, ou même en restant dans l'histoire, détacher de notre histoire l'histoire toujours trop contingente des êtres qui l'ont encombrée, nous nous rendons compte que le calendrier de notre vie ne peut s'établir que dans son imagerie.
Pour analyser notre être dans la hiérarchie d'une ontologie, pour psychanalyser notre inconscient terré dans des demeures primitives, il faut, en marge de la psychanalyse normale, désocialiser nos grands souvenirs et atteindre au plan des rêveries que nous menions dans les espaces de nos solitudes. Pour de telles enquêtes, les rêveries sont plus utiles que les rêves.
Et de telles enquêtes montrent que les rêveries peuvent être bien différentes des rêves.
Alors, face à ces solitudes, le topo-analyste interroge. La chambre était-elle grande? Le grenier était-il encombré? Le coin était-il chaud? Et d'où venait la lumière? Comment aussi, dans ces espaces, l'être connaissait-il le silence? Comment savourait-il les silences si spéciaux des gîtes d'hiver de la rêverie solitaire? Ici, l'espace est tout, car le temps n'anime plus la mémoire. La mémoire, chose étrange, n'enregistre pas la durée concrète, la durée au sens bergsonien. On ne peut revivre les durées abolies, on ne peut que les penser sur la ligne d'un temps abstrait privé de toute épaisseur. C'est par l'espace, c'est dans l'espace que nous trouvons les beaux fossiles de durées concrétisées par de longs séjours. L'inconscient séjourne. Les souvenirs sont immobiles, d'autant plus solides qu'ils sont mieux spatialisés. Localiser un souvenir dans le temps n'est qu'un souci de biographe et ne correspond guère qu'à une sorte d'histoire externe, une histoire pour l'usage externe à communiquer aux autres. Plus profonde que la biographie, l'herméneutique doit déterminer les centres de destin en débarrassant l'histoire de son tissu temporel conjonctif sans action sur notre destin.
plus urgente que la détermination des dates est, pour la connaissance de l'intimité, la localisation dans les espaces de notre intimité. C'est enfermé dans sa solitude que l'être de passion prépare ses explosions ou ses exploits.
Et tous les espaces de nos solitudes passées, les espaces où nous avons souffert de la solitude, joui de la solitude, désiré la solitude, compromis la solitude, sont en nous ineffaçables. Et très précisément, l'être ne veut pas les effacer. Il sait d'instinct que ces espaces de sa solitude sont constitutifs. Même lorsque ces espaces sont à jamais rayés du présent, étrangers désormais à toutes les promesses d'avenir, même lorsqu'on n'a plus de grenier, même lorsqu'on a perdu la mansarde, il restera toujours qu'on a aimé un grenier, qu'on a vécu dans une mansarde. On y retourne dans les songes de la nuit. Ces réduits ont valeur de coquille. Et quand on va au bout des labyrinthes du sommeil, quand on touche aux régions du sommeil profond, on connaît peut-être des repos antéhumains. L'antéhumain touche ici à l'immémorial. Mais, dans la rêverie du jour elle-même, le souvenir des solitudes étroites, simples, resserrées, nous sont des expériences de l'espace réconfortant, d'un espace qui ne désire pas s'étendre, mais qui voudrait surtout être encore possédé.
On pouvait bien jadis trouver la mansarde trop étroite, la trouver froide l'hiver, chaude l'été. Mais maintenant, dans le souvenir retrouvé par la rêverie, on ne sait par quel syncrétisme, la mansarde est petite et grande, chaude et fraîche, toujours réconfortante.
Dès lors, à la base même de la topoanalyse, nous avons à introduire une nuance. Nous faisions remarquer que l'inconscient est logé. Il faut ajouter que l'inconscient est bien logé, heureusement logé. Il est logé dans l'espace de son bonheur. L'inconscient normal sait partout se mettre à l'aise. La psychanalyse vient en aide à des inconscients délogés, à des inconscients brutalement ou insidieusement délogés. Mais la psychanalyse met plutôt l'être en mouvement qu'au repos. Elle appelle l'être à vivre à l'extérieur des gîtes de l'inconscient, à entrer dans les aventures de la vie, à sortir de soi. Et naturellement, son action est salutaire, car il faut aussi donner un destin de dehors à l'être du dedans. Pour accompagner la psychanalyse dans cette action salutaire, il faudrait entreprendre une topoanalyse de tous les espaces qui nous appellent hors de nous-mêmes. Quoique nous centrions nos recherches sur les rêveries du repos, nous ne devons pas oublier qu'il y a une rêverie de l'homme qui marche, une rêverie du chemin.
Emmenez-moi, chemin.
Dit Marceline Desbordes-Valmore en pensant à la Flandre natale, un ruisseau de la Scarpe. Et quel bel objet dynamique qu'un sentier! Comme il reste précis pour la conscience musculaire les sentiers familiers de la colline, un poète évoque tout ce dynamisme en un seul vers.
Oh, mes chemins et leur cadence!
Quand je revis dynamiquement le chemin qui gravissait la colline, je suis bien sûr que le chemin lui-même avait des muscles, des contre-muscles. Dans ma chambre parisienne, cela m'est un bon exercice de me souvenir ainsi du chemin. En écrivant cette page, je me sens libéré de mon devoir de promenade. Je suis sûr d'être sorti de chez moi. Et l'on trouverait mille intermédiaires entre la réalité et les symboles si l'on donnait aux choses tous les mouvements qu'elles suggèrent.
George Sand, rêvant au bord d'un sentier au sable jaune, voit couler la vie. Elle écrit « Qu'y a-t-il de plus beau qu'un chemin ? C'est le symbole et l'image de la vie active et variée. »
Chacun devrait alors dire ses routes, ses carrefours, ses bancs. Chacun devrait dresser le cadastre de ses campagnes perdues. Thoreau a, dit-il, le plan des champs inscrit en son âme. Et Jean Val peut écrire
« Le moutonnement des haies, c'est en moi que je l'ai. »
Nous couvrons ainsi l'univers de nos desseins vécus. Ces dessins n'ont pas à être exacts, il faut seulement qu'ils soient tonalisés sur le mode de notre espace intérieur. Mais quel livre il faudrait écrire pour déterminer tous ces problèmes ? L'espace appelle l'action, et avant l'action, l'imagination travaille. Elle fauche et laboure. De toutes ces actions imaginaires, il faudrait dire le bienfait. La psychanalyse a multiplié ses observations sur le comportement projectif, sur les caractères extravertis toujours prêts à extérioriser leurs impressions intimes. Une topoanalyse extérioriste préciserait peut-être ce comportement projectif en définissant les rêveries d'objets. Mais dans le présent ouvrage, nous ne pouvons faire, comme il conviendrait, la double géométrie, la double physique imaginaire de l'extraversion et de l'intraversion. Nous ne croyons pas d'ailleurs que ces deux physiques aient le même poids psychique. C'est à la région d'intimité, à la région dont le poids psychique est dominant, que nous consacrons nos recherches. Nous nous confierons donc à la puissance d'attraction de toutes les régions d'intimité. Il n'y a pas d'intimité vraie qui repousse. Tous les espaces d'intimité se désignent par une attraction. Répétons une fois de plus que leur être est bien-être. Dans ces conditions, la topoanalyse a la marque d'une topophilie. C'est dans le sens de cette valorisation que nous devons étudier les abris et les chambres. Ces valeurs d'abri sont si simples, si profondément racinées dans l'inconscient qu'on les retrouve plutôt par une simple évocation que par une description minutieuse. La nuance, alors, dit la couleur. Le mot d'un poète, parce qu'il touche juste, ébranle les couches profondes de notre être.
Le pittoresque excessif d'une demeure peut cacher son intimité. C'est vrai dans la vie, plus encore dans la rêverie. Les vraies maisons du souvenir, les maisons où nos rêves nous ramènent, les maisons riches d'un fidèle onirisme, répugnent à toute description. Les décrire, ce serait les faire visiter. Du présent, on peut tout dire, mais du passé, la maison première et oniriquement définitive doit garder sa pénombre. Elle relève de la littérature en profondeur, c'est-à-dire de la poésie, et non pas de la littérature diserte qui a besoin du roman des autres pour analyser l'intimité.
Tout ce que je dois dire de la maison de mon enfance, c'est tout juste ce qu'il faut pour me mettre moi-même en situation d'onirisme, pour me mettre au seuil d'une rêverie où je vais me reposer dans mon passé. Alors, je puis espérer que ma page contiendra quelques sonorités vraies, je veux dire une voix si lointaine en moi-même, qu'elle sera la voix que tous entendent quand ils écoutent à fond de mémoire, à la limite de la mémoire, au-delà peut-être de la mémoire dans le champ de l'immémorial. On ne communique aux autres qu'une orientation vers le secret, sans jamais pouvoir dire objectivement le secret. Le secret n'a jamais une totale objectivité. Dans cette voie, on oriente l'onirisme, on ne l'accomplit pas.
À quoi servirait-il, par exemple, de donner le plan de la chambre qui fut vraiment ma chambre? De décrire la petite chambre au fond d'un grenier? De dire que de la fenêtre, à travers l'échancrure des toits, on voyait la colline? Moi seul, dans mes souvenirs d'un autre siècle, peux ouvrir le placard profond qui garde encore, pour moi seul, l'odeur unique, l'odeur des raisins qui sèchent sur la claie. L'odeur du raisin. Odeur limite, il faut beaucoup imaginer pour la sentir. Mais j'en ai déjà trop dit. Si je disais davantage, le lecteur n'ouvrirait pas, dans sa chambre retrouvée, l'armoire unique, l'armoire à l'odeur unique qui signe une intimité.
Pour évoquer les valeurs d'intimité, il faut, paradoxalement, induire le lecteur en état de lecture suspendue. C'est au moment où les yeux du lecteur quittent le livre que l'évocation de ma chambre peut devenir un seuil d'onirisme pour autrui. Alors, quand c'est un poète qui parle, l'âme du lecteur retentit, elle connaît ce retentissement qui, comme l'expose Minkowski, rend à l'être l'énergie d'une origine. Il y a donc un sens à dire, sur le plan d'une philosophie de la littérature et de la poésie où nous nous plaçons, qu'on écrit une chambre, qu'on lit une chambre, qu'on lit une maison. Ainsi, bien rapidement, dès les premiers mots, à la première ouverture poétique, le lecteur qui lit une chambre suspend sa lecture et commence à penser à quelque ancien séjour. Vous voudriez tout dire sur votre chambre, vous voudriez intéresser le lecteur à vous-même, alors que vous avez entrouvert une porte de la rêverie.
Les valeurs d'intimité sont si absorbantes que le lecteur ne lit plus votre chambre, il revoit la sienne. Il est déjà parti écouter les souvenirs d'un père, d'une aïeule, d'une mère, d'une servante, de la servante au grand cœur, bref, de l'être dominant le coin de ses souvenirs les plus valorisés.
Et la maison du souvenir devient psychologiquement complexe. À ces gîtes de solitude s'associe la chambre, la salle où ont régné les êtres dominants. La maison natale est une maison habitée, les valeurs d'intimité s'y dispersent, elles se stabilisent mal, elles subissent des dialectiques. Que de récits d'enfance, si les récits d'enfance étaient sincères, où l'on nous dirait que l'enfant, faute de chambre, s'en va bouder dans son coin.
Mais, au-delà des souvenirs, la maison natale est physiquement inscrite en nous. Elle est un groupe d'habitudes organiques. À 20 ans d'intervalle, malgré tous les escaliers anonymes, nous retrouverions les réflexes du premier escalier. Nous ne buterions pas sur telle marche un peu haute. Tout l'être de la maison se déploierait, fidèle à notre être. Nous pousserions la porte qui grince du même geste. Nous irions sans lumière dans le lointain grenier. La moindre des clenchettes est restée en nos mains.
Les maisons successives où nous avons habité plus tard ont sans doute banalisé nos gestes. mais nous sommes très surpris si nous rentrons dans la vieille maison, après des décades d'Odyssée, que les gestes les plus fins, les gestes premiers soient soudain vivants, toujours parfaits. En somme, la maison natale a inscrit en nous la hiérarchie des diverses fonctions d'habiter. Nous sommes le diagramme des fonctions d'habiter cette maison-là, et toutes les autres maisons ne sont que des variations d'un thème fondamental. Le mot « habitude » est un mot trop usé pour dire cette liaison passionnée de notre corps qui n'oublie pas la maison inoubliable. Mais cette région des souvenirs bien détaillés, aisément gardés par les noms des choses et des êtres qui ont vécu dans la maison natale, peut être étudiée par la psychologie courante. Plus confus, moins bien dessinés sont les souvenirs des songes que seule la méditation poétique peut nous aider à retrouver. La poésie, dans sa grande fonction, nous redonne les situations du songe. La maison natale est plus qu'un corps de logis, elle est un corps de songe. Chacun de ces réduits fut un gîte de rêverie. Et le gîte a souvent particularisé la rêverie. Nous y avons pris des habitudes de rêverie particulières. La maison, la chambre, le grenier où l'on a été seul donnent les cadres d'une rêverie interminable, d'une rêverie que la poésie pourrait seule, par une œuvre achevée, accomplir.
Si l'on donne à toutes ces retraites leur fonction qui fut d'abriter des songes, on peut dire, comme je l'indiquais dans un livre antérieur, qu'il existe pour chacun de nous une maison onirique, une maison du souvenir-songe, perdue dans l'ombre d'un au-delà du passé vrai.
Elle est, disais-je, cette maison onirique, la crypte de la maison natale. Nous sommes ici à un pivot autour duquel tournent les interprétations réciproques du rêve par la pensée et de la pensée par le rêve. Le mot « interprétation » durcit trop cette volte-face. En fait, nous sommes ici dans l'unité de l'image et du souvenir, dans le mixte fonctionnel de l'imagination et de la mémoire. La positivité de l'histoire et de la géographie psychologique ne peut servir de pierre de touche pour déterminer l'être vrai de notre enfance.
L'enfance est certainement plus grande que la réalité. Pour éprouver, à travers tout notre âge, notre attachement à la maison natale, le songe est plus puissant que les pensées. Ce sont les puissances de l'inconscient qui fixent les plus lointains souvenirs. S'il n'y avait pas eu un centre compact de rêverie du repos dans la maison natale, les circonstances si différentes qui entourent la vie vraie auraient brouillé les souvenirs. Hormis quelques médailles à l'effigie de nos ancêtres, notre mémoire d'enfant ne contient que des monnaies usées. C'est sur le plan de la rêverie et non sur le plan des faits que l'enfance reste en nous vivante et poétiquement utile.
Par cette enfance permanente, nous maintenons la poésie du passé. Habiter oniriquement la maison natale, c'est plus que l'habiter par le souvenir, c'est vivre dans la maison disparue comme nous y avons rêvé.
C'était La poétique de l'espace ou Séjour de l'inconscient, 5e épisode du podcast D'ouvrage en ouvrage, une lecture proposée par la Maison de l'architecture de Franche-Comté. À bientôt!